toi, Ingrid, on est là, Lorenzo, Mélanie, ils ne t'oublient pas, on pense à toi, Ingrid, Ingrid, ne craque pas, il faut que tu résistes à la maladie, il faut que tu résistes, on t'attend, la France est avec toi, Nicolas, c'est bourgeois pour toi, Ingrid, on t'oublie pas, on t'oublie pas. Ton frère, ton deuxième mari, ta soeur, ta mère, ton frère, non, il est mort, ta mère, tes enfants, Mélanie, Lorenzo, il tout pense à toi, Mélanie, on ne t'oublie pas. T'attends, c'était Renaud.
J'ai 52 ans. Ex-délégué syndiqué FO depuis le 1er janvier 2008. J'ai démissionné par fatigue et surtout par trouille. Oui, par trouille, après 25 ans de délégation. Ces beaux messieurs de droite qui disent que le taux de syndicalisation en France est faible comme argument contre le syndicalisme, c'est simplement que l'on vous intimide quand vous êtes délégué. On manipule les collègues pour vous discréditer. On ne vous donne pas le temps de faire votre délégation. On vous le donne de façon à vous culpabiliser. Vous ne manquez certainement pas de témoignages dans ce sens, mais il faut absolument insister là-dessus. Si les gens ne s'engagent pas, c'est qu'ils ont peur. Vous n'avez aucune idée des pressions. Même vous, Monsieur Mermet, qui je pense être sensible à cela, dans une entreprise quand vous êtes syndiqué. Tout le pouvoir est dans le patronat. Vous n'êtes plus un citoyen dans l'entreprise. Un syndicaliste fatigué. Au revoir.
Bonsoir Daniel, c'est Carole de Valmorel. Je suis déléguée du personnel au domaine skiable de Valmorel et je suis contrôleuse aux remontées mécaniques. Nous, les saisonniers des remontées mécaniques, avons massivement débrayé dimanche matin pour dire non à l'accord qui a été signé en 2006 entre le MEDEF, la CFDT, la CGC et la CFTC visant à supprimer, au bout de 3 périodes, l'indemnisation du chômage pour les travailleurs saisonniers. Les signataires de cet accord fragilisent la situation économique, sociale et financière des salariés saisonniers du tourisme, mais aussi de l'agriculture et des différentes stations thermales. Si le cœur t'en dit, et avant que la neige ne disparaisse à tout jamais, en raison peut-être de nos différents comportements irresponsables, nous t'invitons à venir faire une émission sur la saisonnalité de l'or blanc. Nous avons des choses à dire. Merci Daniel.
Bonjour, c'est Valérie. Je vous écoute en balado-diffusion depuis Los Angeles. Et j'avoue que j'ai tellement hâte d'entendre ce que vous avez à raconter sur la frontière mexicano-américaine. Il y a tellement, tellement de choses à dire. En tout cas, je voulais juste dire que je passe de très, très, très beaux moments, des moments de poésie, des moments d'émotion. Ça donne presque envie de voir un peu qu'est-ce qui se passe vraiment en Sarkozyland maintenant. Parce que quand j'entends tous les auditeurs modestes et géniaux, je suis vraiment ravie de la rage, de la joie, de l'humour, de l'intelligence de leurs propos. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vous entendre. Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à tous les AMG. Voilà, moi j'appelle, je suis Sébastien, j'appelle pour parler d'un petit pays dont tout le monde se fout. Tout le monde s'en fout parce que là-bas, il n'y a pas de pétrole, là-bas, il n'y a pas de diamants, là-bas, il n'y a pas de richesse. Ce petit pays, c'est l'Arménie. Et en Arménie, il vient d'y avoir une élection présidentielle. L'actuel Premier ministre a été élu au premier tour à 70%. L'OSCE n'a rien vu, il paraît qu'il n'y a pas eu de fraude. Bref, on a ça. On a aussi un président actuel qui ne pouvait pas se représenter et qui risque fort de devenir Premier ministre. Ça sentirait pas un peu le déjà vu, ça? Bon. Et puis enfin, on a une campagne très équitable avec une télévision à la solde du pouvoir. Alors là-dessus, on peut rajouter quelques manifestations pacifiques de l'opposition menées par Levon Terpetrosyan, l'homme de l'indépendance de l'Arménie et de la libération du bloc soviétique. Bon. Eh bien, Terpetrosyan a été mis en résidence surveillée. Quelques débordements s'en suivent, des émeutes. Au final, 8 morts parmi les manifestants. Des chars dans les rues de Yerevan. Et l'état d'urgence qui est proclamé. La presse est bâillonnée, les députés sont mis en accusation et des procès ont lieu à vitesse grand V. Ça rappelle vraiment trop, trop, trop de choses, Daniel. Bref, il faut faire vite. Il faut faire vite parce que la seule chose qui peut sauver à peu près la démocratie en Arménie aujourd'hui, une petite démocratie, une démocratie qui naît, la seule chose qui peut la sauver, c'est qu'on en parle. Nous, ici, ne laissons pas l'impunité à ce pouvoir. à ce pouvoir qui réprime, à ce pouvoir qui est en train de bafouer la démocratie. Parce que ça, ce sont nos valeurs et qu'il faut qu'on se bouge le cul. Donc aujourd'hui, il faut en parler. Juste ça, que les médias disent quelque chose sur ce qui est en train de se passer là-bas. C'est un scandale.
Bonjour à tous les AMG du Trégor, et puis à tous les autres aussi d'ailleurs. Ce soir, au temps des cerises à Tonquédec, le repère de là-bas, si j'y suis, se tiendra à 20h. Exceptionnellement en début de mois, puisque en fin de mois, le patron était parti en vacances, appelé dans le Périgord pour goûter les foie gras et autres magrets régionaux. Il est quand même revenu, donc on va pouvoir tenir le repère. Ce soir, il faudra qu'il y ait du monde parce que nous aurons la présence exceptionnelle de Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac. J'espère que je n'écorche pas son nom, son fin nom, que Dieu le bénisse, qui viendra exceptionnellement au repère de Tonquédec pour distribuer entre tous ceux qui viendront son parachute doré. Il a décidé d'en faire don aux AMG du Trégor. Alors voilà, alors plus on sera nombreux, moins on en aura chacun. Voilà. Mais ce serait bien qu'on soit nombreux quand même. Voilà, et bah donc c'est toujours au temps des cerises, route de Bullien à Tonquédec, près de Lannion. Voilà, à partir de 20h, et comme d'habitude, l'ambiance sera sympa.
Voilà un bon moyen d'attirer du monde dans un repère de là-bas, si j'y suis, évidemment, ça donne envie. Aujourd'hui, et tous ces temps-ci, les regards sont tournés vers les États-Unis d'Amérique, avec les élections. On en parlera dans les reportages qu'on vous présentera bientôt, sur la frontière, en route vers Tijuana, ça s'appellera comme ça, cette série. Et nous avons assisté à des meetings de Barack Obama et de Hillary Clinton, donc on se fera écho de tout cela. Mais chemin faisant, il y avait un message à l'instant de cette auditrice qui est à Los Angeles, chemin faisant, rencontrant des États-Uniens, on peut pas dire américains quand on est sur la frontière, parce que les Mexicains aussi sont des Américains, donc des États-Uniens, on ne peut pas ne pas penser à Howard Zinn. Howard Zinn, cet historien américain que nous avions rencontré, qu'on va retrouver aujourd'hui, auteur de Une histoire populaire des États-Unis. C'est une autre façon de voir les États-Unis, de voir l'histoire des États-Unis et de voir l'histoire du peuple américain. Et à des moments où certains soi-disant intellectuels et soi-disant philosophes français considèrent que toute critique de la politique des États-Unis relève de l'anti-américanisme et que l'américanisme relève de l'antisémitisme, il est bon d'avoir un autre regard sur le peuple américain. Et par exemple, dans son livre Une histoire populaire des États-Unis, 2492 à nos jours, qui se lit très facilement, qui se lit comme un roman extraordinairement bien documenté. Howard Zinn disait je voulais être un historien qui participe au changement de l'histoire. Howard Zinn est un homme engagé dans son temps, dans son pays, dans son monde, dans son siècle. Et il rappelle comment en 1945, c'est un détail du livre sur lequel je suis tombé, les troupes furent embarquées sur le Queen Mary pour aller combattre sur le sol européen. Et les soldats noirs ont pris place dans les profondeurs du navire à côté de la salle des machines, aussi loin que possible de l'air frais du pont. Et quand on pense que des gens comme Howard Zinn, Chomsky ou Mike Davis qu'on rencontrera ont été des lutteurs de ces années héroïques qui sont les années 60 aux États-Unis, on peut mesurer une des étapes accomplies par ce peuple américain. Donc aujourd'hui, Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
AMG de Nantes, ouvrez bien vos oreilles, grosse semaine. Le repère du mois de mars aura lieu samedi 8 mars au café Le Méliès à partir de 19h. Pourquoi un samedi? Parce que cette semaine, il y a à Nantes le festival sonore organisé par l'asso Histoire d'Onde et la radio, associative elle aussi, Jet FM. Parce que dans le cadre de ce festival, Il y aura la diffusion d'un certain film racontant comment un certain Mermet a pris la tête à un certain Chomsky. Oui, ils en ont fait un film. Olivier Hazon, le réalisateur, sera là. Ce sera l'occasion d'en causer avec lui. Ça se passera le jeudi 6 au cinéma Le Cinématographe à 20h30. C'est juste à côté de notre café repère, ce sera pas dur à trouver. Vendredi, le jour suivant, on se demandera où va le journalisme de service public radiophonique avec tout plein de gens très sympas. Tout ça au lieu unique à 18h30. Donc voilà pourquoi nous vous proposons de se retrouver le samedi suivant, 8 mars, pour causer de tout ça, de tout ce qu'on aura vu et entendu pendant la semaine, tant que ce sera bien chaud dans nos mémoires. Ah oui, le lendemain, dimanche 9 mars, bah, vous ferez bien ce que vous voudrez. Salut, c'était James de Nantes pour le repère, que tu peux venir repérer quand tu voudras, Daniel.
Oui, bonjour, Daniel Vermet, c'est Alain de Toulouse, voilà. J'ai entendu aux infos de midi, responsable du MEDEF, qui disait que M. Sauvagnac avait travaillé 15 ans, donc il avait droit à son parachute doré. Voilà, moi je travaille à la poste depuis 36 ans. J'ai fait 30 ans de nuit, je vais partir à la retraite avec 1040 euros. Voilà, une prime que m'alloue la poste de 9300 euros parce que, voilà, elle veut prendre des jeunes à notre place, des jeunes contractuels. Qu'elle payera à moitié prix et qu'elle va vers une privatisation en 2009, voilà. Et voilà un peu, nous n'avons pas la même valeur, je crois, avec ce monsieur. Et bon, j'espère qu'un jour, quand même, on comprendra et que peut-être que nous, on estimera qu'il faudra arrêter, comme en mai 68, et faire une grève générale, parce que non, c'est nous qui avons le trésor entre nos doigts, c'est le travail. Et si on faisait une grève bonne, une grève générale, peut-être que les patrons comprendraient qui a de la valeur. Voilà.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Françoise qui vous annonce le prochain Café Repère de nos gens. Alors notre Café Repère, il est encore en vadrouille parce que le Bédonia est toujours en travaux. On vous donne donc rendez-vous vendredi 7 à 20h30 au café Le Paul Bert, qui se trouve 82 boulevard de Strasbourg. Le boulevard de Strasbourg, c'est la N34 qui va vers Chelles, en fait. Le café se trouve au croisement du boulevard de Strasbourg et de la rue Paul Bert. Voilà. Alors, venez nombreux, parce qu'on a des propositions à vous faire. Voilà. On dirait que ça se met à bouilloter là dans les repères un peu partout. Alors à bientôt, je vous embrasse. Salut.
Je suis pas contente après les gens qui disent tellement de choses fort désagréables de notre président. Alors je crois que je vais certainement faire des gens satisfaits, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vous téléphonent pas pour vous dire qu'ils sont mécontents de tout ce que l'on dit de cet homme, qui est de toute façon notre président pour encore 4 ans, que l'on aurait plutôt intérêt à aider plutôt qu'à démolir. Je trouve que ce qui se passe autour de lui, ça n'est même plus de la politique, c'est de la méchanceté. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, je trouve cet homme, quoi que l'on dise de son physique, c'est le plus vivant de tous les présidents que je peux regarder à la télévision dans le monde. Déjà, on parle de sa culture, mais pour en arriver là où il en est, excusez-moi, il n'est peut-être pas Proust, mais il sait certainement, encore que je n'en sais rien, mais il sait certainement beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis très contente qu'il soit avec Carla et qu'il m'en parle, qu'il me dise que des choses dans le genre « elle va être contente ». Elle est belle, douce, intelligente, cultivée, et je trouve que c'est quand même gentil. Quant à sa façon de se vêtir, le président, eh bien, ça, je pense que les personnes qui sont dans des quartiers un petit peu délicats, lorsque ces personnes changent de situation et ça leur arrive, eh bien, elles finissent par s'habiller comme M. Sarkozy. Et vous savez, les choses de ma vie n'ont pas été faciles. J'ai à présent un fils qui a une excellente situation. J'ai connu plein de choses. J'ai connu le RMI, j'ai connu des choses très difficiles. Nous y sommes arrivés. Et je redis encore que moi, je suis contente d'avoir ce président. Et s'il vous plaît, aidez-le. Vous aiderez beaucoup, beaucoup les Français. Au revoir.
Salut, c'est la Basse, j'y suis, Daniel Mermet, avec Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis.
Flight number 2, arriving from New York.
It's like
when the first airplane flew for 60 seconds.
C'est comme quand le premier avion a pris son envol, même pour 60 secondes.
You knew then it was possible to have an airplane that would fly for 10 hours.
Dès lors, on savait qu'un avion pourrait voler pendant 10 heures.
Hello, this is Roberta Peters. If you want to hit a high note for safety, please buckle up your seatbelt.
Et c'est quoi? C'est quoi cet avion dont parle Ward Zinn? Cet avion qui a volé et qui revolera probablement un jour? Eh bien, c'est un autre monde, l'autre monde possible. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça? Eh bien, c'est qu'il est historien. Et c'est au sujet de la Commune de Paris. Nous parlions de la Commune de Paris. Et nous parlions de Barcelone, en Espagne, durant la guerre d'Espagne. Nous parlions, nous cherchions des exemples du moment où, dans notre histoire, il y a eu des références, quelque chose qui pourrait nous servir de modèle pour l'un de ces mondes possibles dont certains rêvent, dont certains, beaucoup, ne cessent de penser. L'image qu'a trouvée Howard Zinn, c'est celle-là. Bien sûr, l'avion n'a pas volé longtemps, mais dès lors qu'un avion peut voler, eh bien, tous les espoirs sont permis. Une belle métaphore. On va passer une heure avec cet homme absolument extraordinaire. Peu d'hommes dont que vous rencontrez qui, à travers lesquels passe un souffle aussi puissant, vraiment le souffle de l'histoire. L'histoire populaire des États-Unis, c'est l'histoire des États-Unis comme on l'ignore, voilà, exactement comme on l'ignore. C'est-à-dire vu par le bas, vu par les gens, vu par le peuple, vu par les femmes, vu par les noirs, vu par les petites gens, comme on dit, vu par les ouvriers, vu par ceux qui ne racontent jamais l'histoire, puisque, aussi bien on le sait, l'histoire est racontée toujours par les puissants. Par exemple, j'ouvre presque par hasard le livre de Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, et je tombe sur, le débarquement, lorsque les Américains arrivent en France, eh bien, il nous dit que dans les forces armées américaines, les Blancs et les Noirs restaient séparés au moment de cette intervention. Lorsqu'au début de 1945, les troupes ont été embarquées sur le Queen Mary pour aller combattre sur le sol européen, eh bien, les soldats noirs prirent place dans les profondeurs du navire à côté de la salle des machines, aussi loin que possible de l'air frais du pont, dans une sorte d'étrange remake des transports d'esclaves d'autrefois. Voilà, tout Howard Zinn est dans cette image. Le Queen Mary arrive vers l'Europe pour sauver l'Europe, mais à l'intérieur du navire, les Noirs sont dans le fond, c'est encore la ségrégation, et ils voient là, évidemment, un rapprochement avec le commerce du bois d'ébène. Il va plus loin encore, il nous raconte comment la Croix-Rouge, avec l'accord du gouvernement américain, ne mélangeait pas le sang des Noirs avec le sang des Blancs. Ironie de l'histoire, continue Howard Zinn, c'est un certain Charles Drew, un médecin noir, à qui l'on devait le développement du système du prélèvement sanguin. Il avait été chargé pendant la guerre de l'organisation des dons du sang et il fut remercié après avoir essayé de faire cesser la ségrégation dans ce domaine. Une résistance, la résistance d'un médecin. Tout ce livre raconte les résistances de 1492 à nos jours. Et alors il commence avec l'arrivée de Christophe Colomb, des actuels Bahamas, et il va jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Howard Zinn est presque un journaliste. Il continue de raconter l'histoire de la guerre en Irak, de ce qui se passe dans ces jours-ci. Et il est à la fois un historien de l'immédiat et un historien du temps long. Et c'est entre ces deux temps-là qu'on va se retrouver, entre ces deux tensions du temps long et de l'immédiat, entre ce que nous faisons, nous pouvons, nous
peuple faire sur l'histoire et ce que l'histoire fait pour nous. C'est sur France Inter, Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis.
I'm not a hunter, but I'm told that in places like in the Arctic, where indigenous people sometimes might hunt a wolf, they'll take a double-edged blade and they'll put blood on the blade and they'll melt the ice and stick the handle in the ice so that only the blade is protruding, and that a wolf will smell the blood and wants to eat, and it'll come and lick the blade trying to eat. And what happens is when the wolf licks the blade, of course, he cuts his tongue and he bleeds and he thinks he's really having a good thing. He drinks and he licks and of course he's drinking his own blood and he kills himself. That's what the imperialists did to us with crack cocaine. You got these young brothers out there thinking that they're getting something that they're going to make a living with. They're getting something they can buy a car like the white people have cars. Why can't I have a car? They're getting something that they can get a piece of gold. The white people have gold. Why can't I have gold? They're getting something to get a house. The white people have a house. Why can't I have a house? And they actually think that it's something that's bringing resources to them, but they're killing themselves just like the wolf who's licking the blade, and they're slowly dying without knowing. That's what's happening to the community. You with me on that? That's exactly and precisely what happens to the community. And instead of blaming the hunter who put the damn handles and the blade in the ice for the wolf, that what happens is the wolf gets blamed for trying to live. That's what happens in our community. You don't blame the person, the victim, you blame the oppressor. Imperialism, white power is the enemy. Was the enemy when it first came to Africa, snatched up the first African, brought us here against our will, is the enemy today. That's the thing that we have to understand.
Howard Zinn, je voudrais qu'on commence tout de suite par le titre. Une histoire populaire des États-Unis. Et pour nous, populaire, c'est un mot déjà un peu douteux, qui rappelle un peu les démocraties populaires. Maintenant, populaire, c'est comme populiste. Est-ce que c'est les mêmes réserves qu'on fait aux États-Unis sur l'usage de ce mot?
In the United States,
aux États-Unis,
the book is called A People's History of the United States. Une histoire du peuple.
C'est plus une histoire du peuple qu'une histoire populaire.
Mais, les éditeurs français, la donné le titre, histoire populaire. For me, the word means history of the ordinary people in the United States.
Cela signifie une histoire des gens ordinaires aux États-Unis.
L'histoire des gens ordinaires. Votre but, c'était de faire une histoire par le peuple, pour le peuple.
That's the definition of democracy.
Oui, c'est ça la
by
définition
Abraham
de
Lincoln.
The
government of the
Abraham
people, by the people, for the people.
Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Et c'est le but du livre.
The goal of the book is to show, in fact, that we do not have government of the people in the United States.
Le but de ce livre, c'est de démontrer que justement, il n'y a pas de gouvernement par le peuple.
We do not have government for the people of the United States.
Nous n'avons pas un gouvernement pour le peuple aux États-Unis.
Pourtant, vous êtes une démocratie.
Maybe.
Maybe.
Yes and no.
Oui et non.
Yes and no.
Pourquoi ce n'est pas une démocratie?
Oh, because, and in my book, I explain this, that the founding fathers did not intend to have a democracy.
D'abord, et je l'explique dans le livre, les pères fondateurs n'avaient pas pour intention de mettre en place une démocratie.
The men who created the Constitution of the United States in 1787.
Les hommes qui créèrent la démocratie aux États-Unis en 1777.
Did not want a democracy.
Ne voulaient pas la démocratie.
They wanted a strong central government that would serve the interests of the elite.
Ils voulaient un gouvernement fort, centralisé, qui serve les intérêts de l'élite.
Because those 55 men who wrote the Constitution.
Car ces 55 hommes qui écrivaient la Constitution.
They did not represent the people.
Ne représentaient pas le peuple.
They were slave owners.
Ils étaient propriétaires d'esclaves.
Merchants.
Des marchands.
Land speculators.
les spéculateurs terriens.
Bondholders, and they were afraid of rebellion.
C'était aussi des actionnaires et ils avaient peur des rébellions.
Yeah. In fact, the year before the Constitution was made, there was a rebellion in Massachusetts.
En fait, l'année qui a précédé la Constitution, il y a une rébellion dans le Massachusetts.
1786.
786.
Yeah. That rebellion in 1786 frightened the leaders of the American Revolution.
Et cette rébellion a vraiment effrayé, a fait très peur aux dirigeants de la Révolution.
And they wrote letters back and forth to one another.
Ils se sont écrits les uns les autres.
You know. One of those letters,
et l'une de ces lettres,
to George Washington,
adressée à George Washington,
said, "You know, these rebels, they are veterans of the Revolutionary War against England."
Il disait, mais vous savez, ces rebelles, ce sont des vétérans de la guerre révolutionnaire contre les Anglais.
And they think that because they fought in the Revolution, they deserve an equal share of the wealth of the country.
Et ils pensent que parce qu'ils ont participé à cette guerre révolutionnaire, une partie de la richesse de la nation leur est due.
We must not allow this.
Et on ne peut pas permettre ça.
Yeah. And so we will create a government which will be able to suppress rebellion.
Et c'est pourquoi nous allons créer un gouvernement qui aura les moyens de réprimer.
Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. Au départ de cette histoire, celle qui a conduit à cette musique joyeuse et on ne peut plus américaine, eh bien, il y a cette phrase qu'écrivait Christophe Colomb lorsqu'il rencontra pour la première fois les Indiens Arawak en 1492. Et à l'autre bout du livre de Howard Zinn, il dit une chose toute simple. Il dit 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. C'est quand même pas mal. 1%, je le répète quand même, 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. Le reste est réparti de telle manière que les 99% de la population restante soient montés les uns contre les autres. Malgré la réalité de cette lutte amère et désespérée de ces 99% divisés et qui luttent les uns contre les autres, eh bien, autour de rares ressources épargnées par les élites dominantes, je prends la liberté de réunir ces 99% d'Américains sous l'appellation de peuple. Voilà ce qu'il entend dans le titre de son ouvrage, une histoire populaire des États-Unis, c'est-à-dire une histoire du peuple américain. Alors ce peuple, eh bien, bon, ce sont les Indiens, ce sont les esclaves en fuite, ce sont les soldats déserteurs, c'est les ouvrières, les jeunes ouvrières du textile, c'est les syndicalistes, c'est les GI du Vietnam, et puis c'est les activistes des années 80-90 qu'on a vu lors des manifestations à travers les États-Unis contre la guerre. Alors ce livre va de Christophe Colomb à George Bush, notre George W. Bush d'aujourd'hui, et c'est tout ça qui est raconté par le peuple, vu d'en bas, hein, l'Amérique d'en bas, le contraire de cette Amérique qui à laquelle nous serions identifiés ou assimilés lorsqu'on nous avait dit « nous sommes tous des Américains ».
Dans votre livre, Howard, vous commencez en 1492 et vous dites « jusqu'à maintenant ». Et régulièrement, vous rajoutez des chapitres sur ce qui se passe. Ça finit presque par un journal. Vous travaillez presque comme un journaliste dans l'histoire immédiate. Là, vous évoquez les fondements de la démocratie américaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que les États-Unis d'Amérique sont une démocratie?
Today, the United States is sometimes a democracy and sometimes not a democracy.
Aujourd'hui, les États-Unis sont parfois une démocratie, parfois non-démocratie.
But, you know, in general, no, the government of the United States today is a government which is controlled by the powerful corporations in the United States.
Mais en général, le gouvernement américain aujourd'hui est contrôlé par les grandes multinationales.
And both political parties, the Republicans and the Democrats, they are both connected to the great corporations.
Et les deux partis politiques principaux, les républicains comme les démocrates, sont tous deux contrôlés par les grandes multinationales.
And so the political process in the United States is not a democratic political process, because money controls it.
C'est pourquoi le processus politique aux États-Unis n'est pas un processus démocratique, puisqu'il est contrôlé par des moyens financiers.
It is almost impossible for a third party candidate, if he's not a Democrat or a Republican, almost impossible for a third party candidate to get votes in the election.
Et c'est pourquoi pour un troisième parti, il est quasi impossible en fait de proposer un candidat qui puisse participer aux élections.
It's ironic because the United States says it wants free elections everywhere.
Quelle ironie pour un pays qui défend et qui
wants free elections in Iraq.
qui appelle à des élections libres en Irak.
Yeah. But we don't really have free elections in the United States.
Alors que aux États-Unis même, nous n'avons pas de véritables élections démocratiques.
Another thing about democracy. Democracy requires a free exchange of ideas.
Quelque chose d'autre à propos de cette idée de démocratie. Une démocratie exige un échange libre d'idées.
But it is very hard in the United States to have a free exchange of ideas when the major newspapers and the major television stations are controlled by people of great wealth.
Mais comment avoir un échange libre d'idées quand la majorité des médias, des radios, des journaux est contrôlée par une minorité?
So the question of democracy is not a yes or no, it's a question of how much. And so if the major media are controlled by the wealthy corporations, but we who are outside of that circle have a little democracy.
Donc, ce n'est pas une question de oui ou non, est-ce que nous sommes en démocratie, mais de à quel niveau, à quel comment est-ce qu'on peut mesurer en fait notre implication dans cette démocratie. Pour nous qui sommes à l'extérieur du cercle de ceux qui contrôlent les moyens d'expression démocratique, nous n'avons pas les moyens en fait d'y participer.
Quand vous dites vous, c'est qui, de qui parlez-vous?
When I say we, I mean the opposition in the United States.
Quand je dis nous, je parle de l'opposition aux États-Unis.
Yeah. I mean the people who are against the war in the United States.
Je pense à ceux qui sont contre la guerre aux États-Unis.
I mean the people who want a more equal division of the wealth in the United States.
Je pense à ceux qui exigent une répartition plus équitable de des richesses aux États-Unis.
The people who want to reform the prison system, the judicial system in the United States.
Je pense à ceux qui veulent réformer le système judiciaire, les prisons aussi aux États-Unis.
Et pourtant, les États-Unis d'Amérique ont l'image du pays le plus libre. Le monde libre,
but still the United States
où on peut dire ce que l'on veut, c'est le pays du cause toujours.
Yes. Well, this is an image which is cultivated by the United States. The United States presents this image all over the world.
C'est une image qui est cultivée par les États-Unis et la présente à travers du monde entier.
A manufactured image, you say.
C'est une image fabriquée, voyez-vous.
Yes, we, the opposition.
Oui, nous, l'opposition.
We can have a meeting and speak to 1,000 people.
Pouvons organiser des meetings et s'adresser à un millier de personnes.
Or 3,000 people.
Voire 3,000 personnes.
Bush can speak to 20 million people.
Bush peut s'adresser à 20 millions de personnes.
Yeah. Mm-hmm. Pourtant, votre livre. Votre histoire populaire des États-Unis ou votre histoire du peuple américain a un grand succès aux États-Unis. Vous êtes à 1 million d'exemplaires. Depuis 1980, le livre se vend très bien. Enfin, c'est un succès de librairie et un succès populaire et un succès universitaire. Enfin.
Ah, merci beaucoup. consider this.
Mais regardez.
A million people in the United States. Is not a majority of the population.
1 million de personnes aux États-Unis, ça n'est pas la majorité de la population.
And no major television station and no major radio station has said anything about my book.
Et aucune station de radio, des médias principaux ou bien de la télévision n'a dit un mot sur mon livre.
Yeah. Mm-hmm. But, you know, it's, I don't want to be totally pessimistic.
Mais je ne veux pas être pessimiste pour autant.
Because we must recognize that there exists in the United States an opposition of millions of people.
Car il faut reconnaître qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a une opposition qui regroupe des millions de personnes aux États-Unis aujourd'hui.
And too often people in other parts of the world, people in Europe and other parts of the world,
et bien trop souvent,
do not see this opposition.
Les gens en Europe ou dans d'autres parties du monde ne voient pas en fait cette opposition.
C'est vrai que les figures de l'opposition américaine aux États-Unis qui nous parviennent, c'est des stars. C'est Michael Moore.
Oh, yes.
C'est Chomsky.
Mm.
Noam Chomsky.
Mm.
Et peut-être vous bientôt. Mm. Vous n'êtes pas encore une star ici, désolé. Mais c'est pas le peuple. On voit pas des mouvements syndicaux ou des mouvements associatifs. Votre mouvement Not in Our Name est parvenu un tout petit peu dans l'opinion française à un moment où notre gouvernement émettait des réserves sur l'offensive en Irak. Dans cette condition et uniquement dans cette condition, Not in Our Name est rentré un petit peu dans l'opinion. Quelle est la réalité de cette opposition aux États-Unis?
The stars, naturally.
Ces stars dont vous parlez
are best known.
Sont évidemment très connus.
Because in, you know, modern culture, stars are important.
Parce que dans la culture moderne, les stars sont importantes.
But behind the stars in the United States, there are real people. There are millions of people.
Mais cachés derrière ces stars, il y a de vrais gens, des millions de gens.
Even before the war began in Iraq, there were demonstrations of hundreds of thousands of people all over the country.
Et bien avant que la guerre éclate en Irak, il y avait des manifestations aux États-Unis de centaines de milliers de personnes.
And if you consider that for every person who is so energetic as to go to a demonstration.
Alors considérez pour toute personne qui a suffisamment d'énergie pour aller à une manifestation.
You know, there are 50 people who feel the same way.
Pour chacune de ces personnes, il y a bien 50 personnes qui ressentent la même chose.
It's true we don't have a strong trade union movement in the United States.
Que nous n'avons pas un mouvement syndical organisé et fort.
And then that's a weakness in the movement.
C'est vrai que c'est une faiblesse du mouvement aux États-Unis.
We don't have central organization for the movement in the United States.
Nous n'avons pas d'organisation centralisée aux États-Unis du mouvement.
But we have anti-war activity taking place all over the country in the smallest of towns.
Mais nous avons une activité anti-guerre dans les plus petites des villes américaines.
Here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation, under the stone cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down with threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in a form of a dream. Peace in a form of a dream. Peace in a form of a dream. Cause take away our PlayStations and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, folks, and boy did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me. 'Cause I'm a poem heating hyperdistillation, and I've got no room for a lie so verbose.
Yeah.
Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels. Baby, listen.
Une autre Amérique, un autre regard sur l'Amérique et une autre histoire de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, une histoire populaire des États-Unis par Howard Zinn, historien qui a enseigné l'histoire et les sciences politiques à la Boston University et dont il est aujourd'hui professeur émérite. Un bouquin absolument formidable aux éditions Agon et que je vous conseille vraiment très chaudement. Dès le début du bouquin, Howard Zinn nous dit carrément les choses. Il dit « L'historien ne peut pas ne pas insister sur certains événements au détriment des autres. » Il n'essaye absolument pas de se mettre dans la posture d'une quelconque objectivité, d'un surplomb scientifique. Non, il est sur le terrain, il est un homme engagé, il est un homme qui connaît la vie quotidienne des États-Unis. Il a été docker, il a été engagé dans l'armée américaine, il nous le racontera. Donc il sait de quoi il parle, il sait physiquement de quoi il parle, et il sait bien qu'on ne peut pas ne pas privilégier un événement d'une façon tout à fait, et qu'il n'y a pas d'objectivité. Donc c'est un homme engagé qui regarde l'Amérique et qui la regarde de l'autre côté, d'en bas. Et c'est assez rare, ça peut paraître extraordinaire dans ce avec l'idée de démocratie qui vient tout de suite quand on prononce l'expression États-Unis. Eh bien, c'est un autre regard et qui court tout au long de ce livre, mais à travers des histoires. Je vous en ai raconté, mais toutes les 15 lignes, 20 lignes, on trouve une histoire de l'histoire des États-Unis, et tout au long du livre, les réflexions de cet auteur engagé qu'est Howard Zinn.
Hello, this is Roberta Peters. If you want to hit a high note for safety, please buckle up your seatbelt.
Je voudrais qu'on parle maintenant plus étroitement de votre approche de l'histoire. Et vous racontez l'Amérique d'en bas. Vous racontez ce que l'histoire fait sur le peuple et ce que le peuple fait sur l'histoire.
Yeah.
C'est vrai que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Mmh. Et les vainqueurs, ben, c'est le pouvoir, ce sont les dominants, ce sont les conquérants. Et notre histoire à nous, elle nous est racontée de cette façon. Et l'histoire des États-Unis est racontée de cette façon. Et comme vous dominez le monde, eh bien, l'histoire américaine vous est racontée de cette façon.
Exactly true.
Absolutely.
Because I wanted to show the victims of the society.
Je voulais montrer les victimes de la société.
No, I wanted to show the Indians, the indigenous people who were annihilated.
Je voulais montrer les indigènes, les Indiens, et comme ils ont été
annihilés.
Parce que les Américains sont entrés sur le territoire et ont évolué.
But I also wanted to show that these Indians resisted.
Et j'ai aussi voulu montrer comment ces Indiens ont résisté.
In the 1960s,
dans les années 1960,
when it was considered that the Indians had disappeared,
alors qu'on considérait que les Indiens avaient disparu,
that they had been annihilated.
Ils avaient été complètement annihilés.
Suddenly an Indian movement became evident.
Soudain, un mouvement des Indiens revint sur le devant de la scène.
You know, and today, for instance, in the United States, we just celebrated Thanksgiving.
Et par exemple, aux États-Unis, on vient juste de célébrer Thanksgiving, la fête de...
You know, which is a traditional holiday and in which the myth is of how generous the European settlers were to the Indians.
C'est un jour férié. En fait, le mythe qui court sur ce jour férié, c'est à propos de la générosité des premiers colons européens quand ils sont arrivés aux États-Unis. Célèbre leur générosité.
Yeah. But today, all over the United States, when there is Thanksgiving Day, there are Indians who speak up and protest.
Lors des Thanksgiving Day, lors de ces jours fériés aux États-Unis, des Indiens prennent la parole.
And the same thing is true for other groups in the United States, where I try to show, I show black people as victims of American society.
Et je tente de faire la même chose avec d'autres groupes de la société américaine, notamment les Noirs, que je montre comme des victimes de la société américaine.
But I also try to bring out the hidden stories of how they resisted slavery and then how they resisted segregation.
Et je cherche aussi à exhumer les épisodes cachés de la façon dont les Noirs ont résisté à l'esclavage et plus tard à la ségrégation.
For instance, the myth in the United States is that Abraham Lincoln freed the slaves.
Un grand mythe de l'histoire américaine concerne le fait qu'Abraham Lincoln aurait été le libérateur des esclaves noirs aux États-Unis.
And the reality is that Lincoln was very slow to act.
La réalité, en fait, c'est qu'Abraham Lincoln a vraiment été très, très, très long pour agir.
And what actually happened was that there was a great movement, anti-slavery movement, of black people and white people.
En fait, il y a eu un grand mouvement contre l'esclavagisme de la part des noirs et des blancs.
Which created a great pressure on Lincoln and on the Congress.
Et c'est ce qui a mis la pression en fait sur Lincoln et sur le Congrès américain.
And the result was the Emancipation Proclamation and the result was a change in the United States Constitution.
C'est ce qui a amené à la proclamation d'indépendance et à la modification de la Constitution américaine.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road. A hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door. And I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I laid into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor. And I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see. This world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor. And I ain't got no home in this world anymore.
C'est-à-dire que tout au long de votre livre, vous racontez les résistances aussi, pas seulement des peuples éternellement victimes. Parlez-moi du parti pris de l'historien. L'historien choisit des faits. Il n'y a pas d'objectivité historique.
No, it's interesting that when you go to school in the United States, you are given a textbook of history.
Quand vous allez à l'école aux États-Unis, on vous donne un manuel d'histoire.
Which is very fat.
Qui est très épais.
And you then deceived into thinking that it is all there. The history, the entire history.
Tout est là dans ce livre. L'histoire entière des États-Unis tient dans ce livre.
And you are not told that so much has been omitted.
Et on ne vous dit pas que tel et tel aspect de l'histoire américaine a été omis.
But as soon as you begin to think about the process of writing history.
Et dès lors que vous commencez à réfléchir au processus qui amène à écrire l'histoire,
you realize that objectivity is impossible.
Vous vous rendez vite compte que l'objectivité est impossible.
Because the historian, like the journalist, has to select out of an enormous number of facts and decide what is important.
Car l'historien comme le journaliste doit sélectionner dans une masse énorme de faits ce qu'il va mettre en avant.
And so the history books have always reflected what the upper classes thought was important.
C'est pourquoi les livres scolaires ont toujours reflété ce que les classes dirigeantes ont considéré comme primordial.
On a l'impression que pour les puissants, l'instrumentalisation de l'histoire est indispensable pour accéder à la puissance, au pouvoir, ou pour s'y maintenir.
Yeah, that's exactly true.
Exactement, c'est tout à fait ça.
And so, when they're telling the story of the economic history of the United States, they emphasize the work of Rockefeller, Carnegie, Morgan, the great entrepreneurs.
C'est pourquoi dans l'histoire économique des États-Unis, ce qui est souligné, ce sont les faits d'armes des grands entrepreneurs.
Les barons voleurs.
The robber barons, yes, exactly. But they don't call them robber barons, they call them captains of industry.
Mais on ne les appelle pas les barons voleurs, on les appelle les capitaines de l'industrie.
Yeah. Vous avez tout un chapitre où vous racontez notamment l'histoire de Morgan.
But they leave out of the history books all of the great strikes that took place in the United States.
Mais ce qu'ils omettent, ce sont toutes les grandes grèves de l'histoire américaine.
Bloody, violent strikes.
Très sanglantes.
In which the working class faced the police, the army.
Et la classe ouvrière s'est confrontée à la police, s'est confrontée à l'armée.
And that's how the 8-hour day was won.
C'est exactement comme ça qu'on a gagné la journée de 8 heures.
Vous racontez l'histoire du 1er mai.
Yeah,
c'est une invention américaine, le 1er mai.
Exactly. The 1st of May came out of those struggles.
Exactement, le 1er mai, il a émergé de ces grandes luttes.
But if you don't know about those struggles, you think that the 8-hour day was a gift to the working class.
Mais si vous ignorez tout de ces grandes grèves, vous pensez simplement que la journée de 8 heures a été donnée généreusement par les dirigeants.
So when you omit these struggles, you create a population which is passive, which is waiting for gifts from the people who run the country.
C'est pourquoi en omettant ces grandes luttes, vous créez une population qui est passive et qui attend.
Aujourd'hui, quel sens vous donnez à votre travail? Une éducation politique, une morale?
No, I see my work as a political act.
Je considère mon travail comme un acte politique.
I want my readers to become active participants in history.
Je veux que mes lecteurs deviennent des participants actifs.
I want them to be inspired by social movements.
Je veux qu'ils soient inspirés par les mouvements sociaux.
I want them to have different heroes than they have received in the textbooks.
Je veux qu'ils se choisissent d'autres héros que ceux qu'ils ont reçus par leurs livres scolaires.
Yeah. I want their heroes not to be generals and warriors. I want their heroes to be people who fought against war.
Je ne veux pas que leurs héros soient des guerriers, soient des militaires, mais je veux que leurs héros soient des gens qui se sont battus contre les guerres.
Merci à Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, paru aux éditions Agone. Et puis nous vous signalons qu'Howard Zinn est également l'auteur de A People's History of American Empire, une histoire populaire de l'Empire américain, et une bande dessinée qui sortira en avril aux États-Unis aux éditions Metropolitan Book. Et beaucoup d'autres livres de Wardine à ne pas manquer, comme L'impossible objectivité. Je crois que c'est un titre un peu comme celui-là qui est très beau. D'autre part, nous vous signalons que demain, jeudi 6 mars, une grande marche en hommage aux victimes du terrorisme d'État en Colombie aura lieu en de nombreux points de la planète. À Paris, elle partira à 18h de la place des droits de l'homme au Trocadéro. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Farid Chibani et Céline Bonhomme. C'est Yann Chouquet et Koyen Bien qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, et c'est Renaud Lambert qui s'occupe du répondeur ces jours-ci. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, vous le savez, c'est le 01 56 40 37 37. Réclame.